7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Après chaque attentat vient souvent une question posée par médias interposés à l'ensemble de la communauté musulmane. Condamnez-vous cette violence? La menace terroriste est bien présente, on l'a vu avec cette attaque hier à la gare de Marseille qui a causé la mort de deux jeunes femmes. Même si le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb refuse pour l'heure de parler d'attentat. Depuis 2015, le terrorisme a fait plus de 330 morts en Europe de l'Ouest et il frappe fréquemment des pays comme l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, le Nigeria ou encore la Syrie. Alors, comment expliquer que de nombreuses personnalités demandent aux musulmans de France de se désolidariser dès qu'une attaque a lieu quelque part sur notre planète? Pourquoi cette thèse, largement relayée d'un silence musulman coupable face à la violence djihadiste? Comment se sentent les Français musulmans pris en tenaille entre d'un côté des terroristes qui se réclament de l'islam et de l'autre une société qui leur demande de s'excuser pour des crimes qu'ils n'ont pas commis? C'est l'objet d'une grande enquête sociologique, la première du genre, publié aux éditions de l'Atelier, intitulé « Musulmans de France, la grande épreuve ». Bonjour Vincent Gesser.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous avez coécrit cet ouvrage et vous êtes avec nous depuis les studios France Bleu d'Aix-en-Provence, dont on remercie au passage les équipes techniques. Bonjour, c'est Didier Amilian.
Bonjour.
Vous publiez-vous « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier ». Vous êtes franco-sénégalais et tout juste docteur en islamologie. Nous serons également en ligne un peu plus tard dans l'émission avec Amine El-Khatmi, conseiller municipal socialiste à la mairie d'Avignon, qui publie « Non, je ne me tairai pas » et qui se dit « laïcard et musulman ». Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Acculés par les amalgames d'un côté et par l'extrémisme religieux de l'autre, comment se sentent les musulmans de France aujourd'hui? Que révèle cette crise des fractures au sein de la société française? Comment lutter contre ces préjugés tout en dénonçant le djihadisme? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous n'hésitez pas comme toujours à nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et vous réagissez déjà sur Facebook. Les voisins, Mara nous écrit de Ziguinchor au Sénégal. Un bon thème d'actualité, tant mieux si cela vous intéresse. Et en effet, hélas, nous sommes en plein dans l'actualité. Gaël nous demande depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo, comment lutter contre l'islamophobie et contre le terrorisme en même temps. On a l'impression que les extrémistes justifient leurs actes par leur religion. Alors, nos invités vont tenter, Gaël, de proposer des pistes de réflexion sur ce sujet dans l'émission. Tidiane et lui à Conakry, il nous écrit « Je suis sûre que les terroristes ne sont et ne seront jamais des musulmans, ces gens salissent notre religion. » Et puis Mahamat et lui à Port-au-Prince « Les terroristes ne représentent pas l'islam. Les musulmans de France, je vous souhaite du courage car on salit votre nom. N'écoutez pas les insultes et oubliez les regards. »
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Cette question déchaîne les passions, enflamme le débat politique, notamment en 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo en janvier, et puis après les attaques du 13 novembre.
Je pense qu'il ne faut pas pratiquer l'amalgame. Et je le dis solennellement, encore une fois, pour moi, la laïcité, c'est la possibilité pour tous les Français de pratiquer la religion de leur choix, y compris pour les Français musulmans. À une condition, évidemment, c'est que les Français musulmans disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec ce fanatisme, avec cette barbarie, avec cette dérive sectaire de leur religion, et que eux souscrivent pleinement aux valeurs de la République.
Rokhaya Diallo, vous êtes musulmane, hein.
Oui, je suis musulmane.
Vous vous sentez directement concernée par ce que dit
Quand j'entends dire que consomment les musulmans de se désolidariser d'un acte qui n'a rien d'humain, oui, effectivement, je me sens visée, j'ai le sentiment que toute ma famille et tous mes amis musulmans sont mis sur le banc des accusés.
Vous ne comptez pas vous désolidariser.
Excusez-moi, mais
ce sont des attentats qui sont commis par des gens qui se réclament de votre religion.
Vous avez vraiment besoin que je verbalise le fait que
oui, j'aimerais effectivement, j'aimerais qu'on visualise.
Tout le monde a invoqué aujourd'hui la nécessité de l'union. Vous êtes le seul à incriminer une partie de la population en la rendant responsable.
J'appelle
et ça,
à l'union de tout le monde.
À la fois indécent,
j'appelle à l'union
c'est
des catholiques, des musulmans, des protestants,
non, c'est
des
pas
juifs.
Ce que vous avez dit. Je suis extrêmement choquée parce que vous êtes en train de dire Yvan Rioufol et c'est ce qui crée la division.
On a entendu Alain Juppé, des Républicains, ancien ministre des Affaires étrangères. On a aussi entendu l'éditorialiste Yvan Rioufol s'emporter contre la militante et essayiste Rokhaya Diallo. Alors, ils ne sont pas les seuls à avoir lancé cette injonction de se désolidariser à l'ensemble des Français musulmans. Pourquoi une telle injonction à la désolidarisation, Vincent Gesser ?
Alors justement, le choix d'Alain Juppé est très intéressant parce que c'est une personnalité plutôt modérée, plutôt nuancée, mais qui justement reprend ce registre de l'injonction. Alors, pour comprendre ce registre de l'injonction, y compris chez des personnalités publiques plutôt modérées et plutôt nuancées comme Alain Juppé, c'est qu'il faut la resituer non pas sur le court terme, le contexte dramatique des attentats, mais aussi sur le long terme, et notamment l'histoire. C'est-à-dire ce rapport très ambivalent aux Français de religion, de culture musulmane, avec des guillemets à religion et culture, qui est à la fois, d'un côté, de leur reprocher d'être trop visible sur le plan communautaire dans l'espace public, et puis d'un autre, très souvent, de leur reprocher de ne pas être assez visible, justement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on disait aux musulmans « on ne veut pas vous voir, votre islamité, vous la rangez chez vous », et puis quand ils la rangent chez eux, finalement, on leur dit « mais il faudrait la ressortir ».
C'est totalement contradictoire, en fait.
Oui, on est dans une... Olivier Roy dit, effectivement, on est dans une sorte de pression contradictoire, de double contrainte, mais qui s'explique encore, je crois, et même s'il ne faut pas tomber dans un discours misérabiliste et victimaire, cette tendance à considérer certes les musulmans de France comme des Français comme les autres, mais, et c'est de ce « mais » justement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a encore une difficulté à considérer que finalement ces musulmans de France ont une revendication de droit à l'indifférence communautaire, de participer à des manifestations sans être ciblés en tant que musulmans ou pas musulmans. D'ailleurs, la grande question qu'il faut se poser lorsqu'on constate que les musulmans ne sont pas présents, ne sont pas visibles dans les manifestations, ce qu'on a appelé les marches républicaines, c'est comment reconnaît-on un musulman à son nez, à sa bouche, à ses yeux, à on vous dire « oui, le voile, la barbe, oui, mais 90% des musulmans de France ou des Français de culture et de religion musulmane n'ont pas forcément un voile et une barbe. Mais pourtant, on va dire qu'ils ne sont pas présents. » Alors, c'est vrai, là, on est vraiment dans une injonction paradoxale qui est un registre récurrent, inscrit dans notre histoire et qu'on a du mal à dépasser et qui est très révélateur de ce rapport ambivalent. Oui, ils sont citoyens comme nous, on considère de plus en plus l'islam comme une religion de France, voire même comme une religion française, mais toujours avec un regard ambivalent, parfois suspicieux, sur leur réel désir d'être français, sur leur réelle inscription dans la francité.
Comment vous avez vécu cette injonction, Sidi Diamiliane ?
Oui, c'est ce que j'appelle justement cette hypocrisie institutionnelle. C'est que, en même temps, comme le dit de manière remarquable Vincent Gesser, on va dire aux musulmans, arrêtez ce communautarisme, comportez-vous comme des citoyens et qu'on ne veut pas entendre parler de musulmans mais de français, et qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a cette injonction, on va demander aux musulmans, sortez en tant que musulmans et non plus en tant que français. Du coup, c'est un paradoxe quand même assez intéressant à analyser. Et puis, cette injonction, ce qui est problématique, c'est que ça ne vient pas seulement du monde politique. Vincent Gesser le montre très bien dans son livre dont on parlait tout à l'heure, « Musulmans de France, la grande épreuve ». Ça a été intellectualisé, par exemple, par Yann Wax, qui avait écrit à l'époque...
Par des éditorialistes.
Oui, par des éditorialistes, qui avaient écrit à l'époque une lettre ouverte, peu agréable, comme ça. C'est comme ça qu'il l'avait intitulé, « Aux musulmans ». À mes amis musulmans, voilà, c'est comme ça qu'il avait intitulé.
Pour les encourager à se prononcer.
À sortir dans la rue. Moi, je dis que c'est contre-productif parce que par la nature des choses, quand on me demande de faire quelque chose, je ne le fais pas. Parce que je dis que je suis adulte, je suis un homme libre, j'ai le libre arbitre, je peux bien réfléchir par moi-même. Et que quand on me dit il faut absolument que tu fasses ça, je ne le fais pas, je suis allergique au discours moralisateur.
Et pourtant, vous êtes allé manifester hein, ce dimanche 11 janvier 2015, comme 4 millions de Français en français dans le monde, dans la suite des attentats Charlie Hebdo.
Oui, je suis allé manifester à la place Kléber, c'était à Strasbourg, sans pour autant dire que j'étais Charlie, parce que je ne suis pas Charlie. Je suis solidaire des victimes, mais je suis allé manifester sans pour autant répondre à cette injonction, c'est-à-dire mon choix
de votre propre chef.
Mon choix de manifester était un choix libre.
En tout cas, vous la vivez, cette injonction, mal. Comment vous la vivez ?
Bon, très mal, parce que ce qui est intéressant, par exemple, avec les propos d'Alain Juppé, quand il dit, il faut que les musulmans disent clairement qu'il n'a rien à voir en gros avec les terroristes. C'est comme ça qu'il l'a dit. Mais ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, les musulmans sont solidaires de ces gens. Et c'est aussi cela qu'on peut révéler, qu'on peut en tout cas voir dans les propos de Rifol en face de Rokhaya Diallo, qui demande de se désolidariser. Quand on se désolidarise, à partir du moment où on était solidaire, d'accord ? Moi, je ne connais pas ces terroristes, je ne les ai jamais rencontrés, je ne sais même pas où ils habitent. On ne va pas me demander de me désolidariser. Et c'est assez problématique parce que, pour plusieurs raisons. C'est que, du point de vue des chiffres, et ça, il faut aussi qu'on sorte de notre égoïsme franco-français, c'est que si on regarde du niveau mondial, la plupart des victimes de ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste sont des musulmans. Je prends souvent l'exemple, par exemple, du Sahel, ce qui se passe. Boko Haram vise 3 fois plus les musulmans que les chrétiens. D'accord ? Et que entre 90 et 95% des victimes de Daesh sont des musulmans. Mmh. Et quand on me demande, en tant que musulman, de me désolidariser des personnes qui tuent, en premier lieu, les musulmans, c'est une double blessure qui me semble insupportable. La deuxième chose, c'est que quand on me demande de sortir dans la rue pour me désolidariser, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, je suis suspect.
Vous vous sentez soupçonné.
Oui.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez pour vos témoignages, vos points de vue, comment lutter contre les préjugés qui pèsent sur l'islam et sur les musulmans, tout en dénonçant le djihadisme. On vous attend au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Cette suspicion, cette idée répandue que les musulmans sont l'autre, ne date pas de 2015 et de Charlie Hebdo, Vincent Gesser.
Non, hein, je dirais que ce rapport à problématique à l'autre musulman est ancien. Hein. Alors, il faut surtout pas tout remettre sur le dos de la colonisation, c'est bien plus complexe. Mais ça renvoie à cette profonde ambivalence, je dirais plutôt française qu'européenne. C'est à la fois finalement d'être assez lucide sur le fait que les musulmans sont français et beaucoup plus que dans d'autres pays, par exemple. Hein. Je crois qu'il y a quand même, la France, un élan de vouloir franciser l'islam, construire un islam français. Mais en même temps, c'est toujours cette idée qu'il y a une petite graine communautaire dans leur cerveau et qu'il faut aller plus loin. Donc là, ce que je voudrais dire à vos auditeurs et aux personnes qui participent à ce débat, je crois qu'il ne faut pas tout ramener sur le dos de l'islamophobie. Ce n'est pas seulement de l'islamophobie, c'est de l'ambivalence. C'est-à-dire que, par exemple, dans les personnes qui ont développé cette injonction de dire aux musulmans « vous devez aller manifester, vous devez aller dans la rue, vous devez être Charlie », il y avait des gens qui étaient plutôt dans un rapport plutôt sympathique à l'égard des musulmans. Mais malgré tout, ils reprenaient l'injonction parce que nous sommes dans cette profonde ambivalence qui traverse les courants politiques, les courants philosophiques, les courants religieux dans notre pays, finalement que les musulmans sont dans une sorte de demi-citoyenneté, certes français, mais effectivement pas complètement acquis aux idéaux, aux valeurs et aux principes de la citoyenneté. Donc oui, il y a des tensions qu'on pourrait dire sécuritaires, parfois entre guillemets islamophobes, mais il y a aussi une très grande ambivalence nourrie par les leaders d'opinion politique, éditorialistes, intellectuels, qui tout en ayant un élan d'empathie, de sympathie à l'égard des musulmans, les voient toujours comme une grande tribu, comme une grande communauté. En gros, il y aurait des modérés, il y aurait des gentils, des moyennement gentils, et il y aurait des terroristes. Comme si finalement les musulmans appartenaient à une même famille, la musulmanie islamique, dans lequel finalement chacun devrait se... Et c'est vrai que ce que dit mon collègue de Strasbourg, il a parfaitement raison, c'est cette idée finalement que ton frère a commis un acte terroriste, tu dois effectivement le condamner. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas son frère qui a commis un acte terroriste. C'est d'abord souvent des personnes de nationalité française. Donc on pourrait dire aussi aux Français, un concitoyen français a commis un acte terroriste, vous devez le condamner. Donc la plupart des attentats commis sur le sol français l'ont été pour l'instant par des personnes de nationalité française. Donc on pourrait aussi faire une injonction aux Français de condamner les Français qui font des actes terroristes, quelle que soit d'ailleurs leur religion. Donc on voit bien cette ambiguïté qui est, à mon avis, profondément ancrée historiquement, qui ne relève pas simplement de l'islamophobie. Parce parce que si elle relevait de l'islamophobie dure, pure, elle serait limitée à quelques leaders d'extrême droite, populistes. Or, ce n'est pas le cas. Elle traverse l'ensemble du spectre intellectuel, philosophique, religieux et politique français. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut y réfléchir et qu'il faut y répondre, je dirais, avec beaucoup de nuances, non pas en culpabilisant, en traitant les gens d'islamophobes, mais plutôt, justement, en voyant quelles sont les possibilités de dialogue et d'analyse.
Ils sont tombés dans un discours injonction française.
Voilà.
Les voisins, voilà. Les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous sommes en ligne avec un voisin, Malik. Bonjour Malik.
Oui, salut.
Vous êtes au Ghana, on vous écoute.
Oui. Alors, en fait, les terroristes, c'est pas en France seulement, ça, c'est partout dans le monde. Et nous, les musulmans, nous avons ce problème partout hier. Si tu es musulman, on te qualifie de terroriste. Donc, tout récemment, j'étais à l'écoute d'un témoignage sur BBC. Il y avait un gars qui était aux États-Unis, qu'on l'a appelé de l'Arabie Saoudite. Sa mère l'a appelé, il dit « Salam alaikum ». En même temps, et les gens qui étaient près de lui, ils le quittent. Donc, il parle le « Salam alaikum », ça veut dire la langue des terroristes. Donc, vous voyez tout ça là. Et je ne sais pas, être terroriste, être musulman ne veut pas dire être terroriste. Et tout récemment, vous voyez le voisin qui est à côté, le Nigeria, vous me recevez?
Oui, oui, on vous écoute.
Oui, le voisin qui est à côté ici, le Nigeria, il avait un gars qui a été arrêté par la police, qui est membre de Boko Haram, il parlait les Hausa. On lui demande c'est qui le prophète. Il était même incapable de dire le pays du prophète. C'est quoi l'islam? Mais c'est ceux-là qui se disent maintenant musulmans et les gens.
Pour vous, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam, en fait. C'est ce que vous essayez, ce que vous voulez nous dire aujourd'hui.
Avec l'islam.
Merci.
Le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam.
Voilà.
En France, par exemple, s'il y a un attentat terroriste, en même temps, les Français ne prennent pas le temps de faire des investigations. En même temps, ils ont les yeux fixés sur les musulmans. Ce qui ne devait pas être comme ça, vous voyez.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Malik. Vincent Gesser, comment vous réagissez à ce que nous dit ce voisin?
Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse cet automatisme musulman égale terrorisme. Parce qu'on... Justement, les forces de la rhétorique de l'injonction, c'est de dire qu'il y a des bons et des mauvais musulmans, mais malgré tout de les ramener au collectif. Donc Malik, je suis d'accord pour ce qu'il ressent. Il doit effectivement être peiné qu'on accuse les musulmans, sa religion ou la religion musulmane d'être responsable et coupable. Mais l'efficacité de cet argumentaire est souvent bien plus nuancée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est efficace. C'est de dire en gros tous les musulmans ne sont pas coupables, mais tous les musulmans sont quelque part responsables, voyez. Et c'est ça la force de la rhétorique, de l'injonction à obliger les musulmans à se positionner, c'est de dire non, non, on comprend, non, 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 ils n'ont rien à voir avec les terroristes, ils ne sont pas coupables, mais quelque part ils sont un peu responsables parce qu'ils appartiennent à la même religion. Donc c'est plutôt la rhétorique de la responsabilité abusive qui fait force, je dirais, de loi un peu chez nous, plutôt que la rhétorique de culpabilité. D'ailleurs, c'est la théorie du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est quoi? C'est pas celui qu'on considère comme coupable d'un crime, c'est celui qui est plus fragile pour qu'on l'accuse d'être plus ou moins complice du crime. Vous voyez, c'est ça, la force du bouc émissaire, la construction, je dirais, sociale, imaginaire de le bouc émissaire dans l'histoire. Ça a été vrai pour, pas seulement pour les musulmans, pour les juifs, pour les roms, pour les gens du voyage. C'est de les accuser, mais en disant, ils ne sont pas forcément coupables tous, mais ils sont quand même un peu responsables de ce que font leur communauté, leur tribu. Et c'est bien ça, on est aujourd'hui un peu dans une figure du musulman émissaire et plus que dans une accusation directe que les musulmans seraient tous des terroristes. Je pense que cette argumentation simpliste, même Marine Le Pen ne le tient plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut quand même le reconnaître et être nuancé dans notre analyse.
Et faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Seydi Djamilian, un ami vous a dit, après les attentats du 13 novembre, qu'est-ce que vous avez encore fait?
Oui, avant, si vous me le permettez, j'aimerais bien rebondir un peu sur les propos sur l'interpellation du Moïse de Malik. Je pense qu'il faut aussi sortir de ce que j'appelle une double essentialisation. Parce que dire que c'est ça l'islam, c'est une essentialisation, et de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam aussi, c'est une autre essentialisation. Il faut vraiment faire attention, parce que l'islam, c'est un... Ghalib Bencher a tendance à dire que l'islam est un mot valise dans lequel on peut mettre tout et le contraire de tout. Et comme je le montre dans le livre, il y a certains discours qui peuvent mener à ces actes de
Il faut
de
faire attention aux discours. Seydi Djamilian, Vincent Gesser, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'info sur RFI pour continuer de parler des Français musulmans face au terrorisme. terrorisme et aux amalgames. Les voisins, les voisines, vous nous appelez, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71. A tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour parler des musulmans de France face au terrorisme aujourd'hui. Soupçonnés de ne pas être des citoyens comme les autres, associés malgré eux à des actes de terrorisme, comment se sentent-ils? Comment faire face à l'extrémisme religieux, d'un côté extrémisme qui continue de sévir? Et comment faire face également aux amalgames? Qu'est-ce que cette crise révèle des fractures en France? Et en quoi peut-elle nous aider à repenser la société française dans son ensemble? Avec nous, pour en parler, le sociologue Vincent Gesser. Vous avez coécrit l'ouvrage « Musulmans de France, la grande épreuve » et vous êtes avec nous depuis les studios France Bleu d'Aix-en-Provence. Également avec nous Seydi Diaminian, docteur en islamologie, qui publie un témoignage coup de gueule « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier » aux éditions Erol. Et nous serons en ligne dans quelques instants avec Amine El-Khatmi, conseiller municipal à la mairie d'Avignon, dans le sud de la France. Il publie « Non, je ne me tairai pas ». Il est aussi président du Printemps républicain, collectif de défense de la laïcité et des valeurs républicaines. Alors, de cette situation épineuse, certains font le pari de l'humour, comme cette comique française.
Bonjour, c'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits. Vous êtes gentils, maintenant vous nous laissez tranquilles. Hein, on est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà, au revoir.
Samia Orosmane, humoriste française, dont la carrière a décollé après cette vidéo postée sur Internet après l'attentat au Parlement d'Ottawa au Canada en octobre 2014. Vidéo qui a eu un large succès, qui a été partagée après les attentats en France à de multiples reprises. Les mobilisations musulmanes, Vincent Gesser, ont aussi eu lieu largement sur la toile, sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous avez découvert avec votre enquête ?
Oui, alors voyez, par position morale, par position de principe, beaucoup de Français de religion et de culture musulmane ont dit on ne veut pas parler en tant que musulman, on ne veut pas s'exprimer et on ne répondra pas à l'injonction. Mais finalement, déjà de dire ça, c'est parler. Et finalement, la plupart des acteurs que nous avons enquêtés, que ce soit sur la toile, mais aussi les responsables nationaux musulmans, les responsables locaux, ont fini par produire une parole publique musulmane contre le terrorisme. C'est-à-dire que ça rejoint ce que dit mon collègue islamologue de Strasbourg, c'est qu'au départ, effectivement, il y a une position de principe. Si tu me forces à parler, je ne parle pas, mais très très vite, parce qu'ils se sentent interpellés en tant qu'individus choqués par la violence, ils se sentent interpellés en tant que citoyens français, mais aussi en tant que croyants. Un croyant qui est confronté au terrorisme, c'est quelque chose qui lui parle dans sa foi. Et bien finalement, les musulmans de France ont fini par s'exprimer. Et que cette parole qu'ils redoutaient parce qu'elle était forcée, parce qu'elle était obligée, parce qu'elle était contrainte, a fini par devenir une parole, je dirais, normalisée. Et dans le livre, on analyse comme ça avec Homero Marondiou et Kaina Smaïl, ma co-autrice, mes co-auteurs, on analyse comme ça des centaines et des centaines de prises de parole publique musulmane. Ce qui veut bien dire, oui, les musulmans qui se sentent musulmans, qui pratiquent cette religion, je ne parle pas des Français d'origine musulmane, mais ceux qui assument leur foi, ont pris la parole pour condamner le terrorisme, pour organiser des mobilisations, pour lancer des initiatives. Et nous remettons en cause, enquête à l'appui, avec des centaines de témoignages, mais surtout d'observations, l'idée qu'il y aurait eu un silence musulman face au terrorisme. Il n'y a pas eu de silence musulman. Il y a bien eu une parole publique, voire des paroles publiques musulmanes, y compris celle de l'humour, pour riposter contre le djihadisme.
Et justement, on parle de personnalités françaises, politiques notamment, qui ont commencé à s'afficher comme musulmanes. Nous sommes en ligne avec Amine El-Khatmi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu socialiste à la mairie d'Avignon depuis 2014. Vous êtes vous-même musulman. C'est ainsi que vous vous présentez, notamment sur la couverture de votre livre « Non, je ne me tairai pas » chez les éditions J.C. Lattès. Quel regard vous portez sur cette injonction qui est souvent faite aux musulmans de se désolidariser des attentats commis ?
Écoutez, je voudrais d'abord, si vous le permettez, revenir sur la présentation que vous avez faite tout à l'heure en me présentant, en disant que je me présentais comme laïcard Je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher cette référence. En l'occurrence, je voudrais juste rappeler que le
un fervent défenseur de la laïcité, pardon.
Non, c'est un mot, madame, pardon, inventé par Charles Maurras, qui était membre de l'Action française et qui voulait éradiquer la France, je le cite, de l'influence des métèques, des juifs, des protestants et des francs-maçons. Donc croyez-moi, je n'irai pas chercher mes références chez de telles personnes.
D'accord, par ailleurs, je m'excuse pour ce mot.
Je vous en prie, je vais prendre un peu de temps puisque vos invités semblent et le voisin que vous avez sélectionné au téléphone semble d'accord. Je vais donc essayer d'apporter un début de contradiction à cette belle unanimité. En réalité, ce qui se joue, quand on dit qu'il faut que les musulmans se désolidarisent et condamnent, c'est qu'il y a une guerre d'influence entre différents courants de pensée au sein de l'islam. C'est une guerre d'influence qui ne date pas d'hier, qui est très ancienne, entre des gens qui sont plus ou moins rétrogrades, plus ou moins réactionnaires, plus ou moins rigoristes. Et le courant de pensée qui a pour le moment dominé et disons qui s'est imposé dans cette guerre d'influence, c'est l'un des mouvements d'influence et l'un des courants les plus rigoristes, en l'occurrence le wahhabisme, et qui a des mécènes, qui a des promoteurs, et je pense en particulier à l'Arabie Saoudite ou au Qatar. D'ailleurs, je trouve assez loufoque que l'Arabie Saoudite donne des leçons au Qatar, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et cette guerre d'influence, elle a été permise parce que ces mécènes ont déversé des milliards sur tout un tas de pays pour construire des lieux de culte, former des imams, subventionner des associations pseudo-culturelles qui sont en réalité des associations islamistes. Et c'est cette promotion de cette vision rigoriste de l'islam qui aujourd'hui permet le djihadisme, le terrorisme. Et vous avez au sein du monde musulman tout un tas de chercheurs, d'intellectuels très sérieux qui ne sont pas islamophobes, parce que cet argument aussi devient insupportable à chaque fois que l'on parle de l'islam. Vous avez des gens qui arrivent immédiatement et qui vous disent « vous êtes un islamophobe ». Mais je pense à des gens comme Abdelwahed Medeb qui dit « l'islamisme est la maladie de l'islam, les germes sont dans le texte ». Je pense à des gens comme Galeb Benchek, comme Kamel Daoud, encore Abdennour Bidar qui dit « le salafisme est le cancer de l'islam ». Et que disent ces gens qui veulent, disons, un islam réformé? Ils veulent abandonner le refus du droit à la liberté vis-à-vis de la religion. Ça, c'est le premier principe. Ils veulent abandonner cette espèce d'absence d'autocritique. Aujourd'hui, un musulman ne peut pas critiquer sa religion. Ils veulent abandonner l'affirmation de la supériorité de l'islam. Ils veulent abandonner cette espèce d'antisémitisme qui est profondément ancré dans tout un tas de pays et dans la culture arabo-musulmane. J'ai moi-même grandi dans un quartier populaire d'Avignon qui s'appelle la Renjane. Et combien de fois ai-je entendu, et je continue à l'entendre encore aujourd'hui, que les juifs al-Yahoudi sont nos pires ennemis avec des propos tout à fait insupportables. Donc ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a aujourd'hui au sein de l'islam une guerre d'influence entre des gens qui sont plus modérés, ouverts, tolérants, démocrates, qui pensent que l'islam est compatible avec les droits de l'homme, et des gens qui sont des conservateurs, des rigoristes. Et donc dire aux musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas leur rendre service. C'est se donner bonne conscience. Et vous avez aujourd'hui tout un tas de gens dans ce pays, des sociologues, des responsables politiques. Vous avez d'ailleurs l'un de vos invités en est l'une des expressions les plus abouties. Ou comme hier, Madame Obono, qui rivalise d'imagination pour essayer de trouver des excuses. De la France insoumise, qui est quand même extraordinaire, puisqu'hier, sur un grand plateau de télévision, elle nous a expliqué qu'un homme chauffeur de bus qui refuse de prendre son service parce que le bus a été conduit par une femme n'est pas forcément radicalisé. D'ailleurs, nous expliquait-elle, elle ne sait pas forcément ce que ça veut dire quelqu'un de radicalisé, mais c'est juste quelqu'un de sexiste. Ou la même, qui dans la même émission nous expliquait que sur la burqa, elle ne savait pas très bien s'il fallait voter l'interdiction ou pas. Et je pourrais citer d'autres exemples, cette histoire d'affaires de Sevran, où on nous a expliqué que ça n'existait pas, ou encore
les cafés interdits aux femmes
qui se plaignent à la chapelle et auxquels des féministes, rendez-vous compte, viennent expliquer que non, il ne faut pas dénoncer ces agissements parce qu'ils sont le fait de racisés et de migrants et qu'en élargissant un peu les trottoirs, on réglerait bien le problème. Bon, tous ces gens-là ne rendent pas service aux musulmans dont ils prétendent être des porte-parole. Je demande d'ailleurs à M. Gézère au nom de quelle légitimité
et justement,
mon nom était francisé, je m'appelle M. Gézère, merci.
Oui, justement,
mon origine étrangère.
Amine El-Khatmi, pourquoi prendre la parole en tant que musulman aujourd'hui ?
Oui, c'est une question qu'on peut poser.
Je voudrais ne pas avoir à le faire. Et je considère d'ailleurs qu'en tant qu'élu, je devrais garder, et je m'efforce de le faire, ma foi, ma conviction religieuse pour la sphère qui est la sienne, c'est-à-dire la sphère privée. Mais comme je constate qu'aujourd'hui, les musulmans qui prennent la parole, qui sont invités sur les plateaux de télévision, à qui on ouvre les portes des studios, déversent systématiquement des discours victimaires pour expliquer qu'ils sont victimes d'islamophobie, victimes du racisme d'État, victimes du passé colonial de la France, et que les musulmans sont massivement persécutés dans ce pays, eh bien je me sens avec quelques autres, je pense à Sonia Mabrouk, je pense à Lydia Girous et à d'autres, la liste est longue, de devoir prendre la parole pour dire stop, ils ne parlent pas en notre nom, ils ne nous représentent pas, nous ne nous reconnaissons pas dans ce discours victimaire, non, la France n'est pas un pays raciste, nous sommes fiers d'être des patriotes et des républicains, et ces gens-là n'ont aucune légitimité, je pense à la patronne du Bondi Blog, je pense au directeur du CCIF, je pense à Madame Boutelja et à tous les autres, ils n'ont aucune légitimité pour venir déverser sur les studios de télévision et de radio à Paris des discours victimaires pour tenter de faire culpabiliser les Français. Nous sommes heureux et fiers de vivre dans ce pays, nous voulons continuer à vivre dans ce pays et en même temps nous voulons continuer à pratiquer notre religion tranquillement et sereinement.
Merci Amine El Khatmi d'avoir partagé votre colère et votre message aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Nous sommes en ligne maintenant avec un imam, un voisin, Djibril. Bonjour Djibril.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà. Moi, je voulais intervenir à cette émission parce que tout le monde est en colère, nous les musulmans aussi. Et je pense qu'on doit vivre dans ce pays dans la tranquillité. Et je voulais quand même que tout le monde s'apaise et regarde encore ce que disent les textes de l'islam. Moi, je ne parle pas de telle personne parce qu'il ne me représente pas. Moi, celui qui me représente, c'est le prophète et l'islam. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? C'est de vivre ensemble. Je dis à celui qui tue au nom de l'islam qu'il n'est pas musulman parce qu'il ne doit pas tuer au nom de l'islam parce que c'est marqué noir sur blanc, c'est écrit que tout le monde le veuille ou pas, le corps, c'est marqué. Celui qui tue une personne a tué l'humanité toute entière. C'est marqué.
Et vous dénoncez, vous, les amalgames qui sont faits?
Et donc, oui, je dénonce cela. Et rien aussi, les amalgames, c'est quoi? C'est le mot djihad. Que tout le monde les savant, les gens qui savent, étymologiquement, le mot signifie effort. Tout le monde est d'accord. Étymologiquement, le mot djihad, ça veut dire effort. Effort d'aller chercher quelque chose, à vivre, à protéger sa famille, à vivre en convenance avec les autres. C'est cela qu'on appelle djihad. Et le mot harb, ça veut dire guerre. Et les gens qui savent, le savent très bien que harb, ça veut dire guerre en arabe, étymologiquement. Combat, ça veut dire qital. Donc tous ces mots-là ont été galvaudés, vidés de leur sens. Et que les gens qui sont ignorants aujourd'hui, les musulmans qui sont ignorants et qui n'ont pas appris, et comme les jeunes qui ont été embrigadés dans cette idéologie, sont partis dans cela. Alors qu'il faut maintenant inviter les gens sages, les gens qui sont dans le juste milieu, qui savent ce que l'islam enseigne. Moi, je suis d'origine sénégalaise. J'ai vécu dans un pays où chrétiens et musulmans vivaient en harmonie jusqu'à aujourd'hui. On a eu un président, 95% qui ont été, que leur président était Léopold Sédar Senghor, que aujourd'hui la France respecte. Et jamais il y a eu un souci.
Catholique, alors que 85% des Sénégalais sont musulmans.
Sont musulmans. Et on a toujours vécu en harmonie. Et je pense que cela, aujourd'hui, on peut le faire. On est 7 milliards de musulmans, 1 milliard de musulmans sur Terre. Si tout le monde était terroriste, ça serait le chaos. Réfléchissons à un moment donné.
Merci Djibril pour cet éclairage, et cet éclairage notamment religieux. Alors sans tomber dans un débat théologique, Vincent Gesser, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit ?
Alors, sur la question effectivement du wahhabisme, nous on a pu observer, contrairement à ce qu'a dit votre invité élu, même si je partage un certain nombre de ses propos, il y a un vrai débat contradictoire, très fort, sur la responsabilité d'une certaine idéologie, on va dire idéothéologie wahhabiste, aujourd'hui dans la légitimation du terrorisme. Et contrairement à ce qu'il peut dire, l'Arabie Saoudite n'est pas très populaire, y compris dans les milieux les plus croyants. Premier élément de réflexion. Donc oui, réfléchir aujourd'hui sur la responsabilité d'une idéologie dans le terrorisme, même s'il faut faire attention dans la nuance et pas forcément d'automatisme entre une idéologie et le passage à l'acte. En tout cas, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui de poser la responsabilité du wahhabisme dans la légitimation des argumentaires de Daesh. Deux, ça va même plus loin. Aujourd'hui, un certain nombre de théologiens en France, y compris anciennement conservateurs, posent aussi la question de la responsabilité théologique globale et voire la responsabilité de certains textes dans ce qu'on pourrait appeler les formes de légitimation de la violence, dont la violence terroriste. Et ça, je peux vous dire, l'enquête qu'on a fait dans les mosquées françaises et dans les associations françaises, c'est-à-dire dans l'islam du bas, donc dans la France musulmane du bas, montre que c'est pas du tout tabou aujourd'hui de poser cette question de la violence et du lien entre terrorisme et islam. Trois, et ça c'est une autre réflexion que je voudrais avoir, puisque c'est un élu politique et qu'il est responsable du printemps républicain, je voudrais lui dire une chose. Il a raison de tenir ses positions, du moins il a raison. On est dans un pays démocratique et c'est bien qu'il tienne ses positions. Mais en tant qu'élu, je l'interpelle sur une chose. Aujourd'hui, la question terrorisme, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose de dramatique. Et ce n'est pas en accusant toutes les mosquées de France d'être des mosquées terroristes qu'on luttera contre le terrorisme. Okay. Précisément, avoir des terroristes dans toutes les mosquées de France, avoir des terroristes dans toutes les mosquées de France, à considérer que toutes les associations musulmanes... C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord avec un prêtre catholique qui est un peu conservateur. On peut ne pas être d'accord avec un rabbin qui est conservateur. On peut ne pas être d'accord avec un imam qui est conservateur. Mais de là à l'accuser de terrorisme, c'est même, je dirais, une analyse qui est dangereuse pour la lisibilité sécuritaire de la France. Car aujourd'hui, à trop voir des terroristes dans les mosquées, on n'en voit nulle part. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que à dire « oui, mais celui-là, sa barbe est un peu trop longue, donc quand il condamne le terrorisme, il doit mentir, ça doit être un double discours », ça c'est dangereux aussi. Parce que le terrorisme, ça nécessite justement une véritable union, une véritable dialogue, une véritable synergie des volontés citoyennes, religieuses, spirituelles de ce pays, qu'elles soient athées ou pas, et que si on en arrive à monter les Français les uns contre les autres, eh bien, on fera le jeu des terroristes. Et c'est ça que je veux dire aussi à votre invité, attention, attention, attention à ne pas tout amalgamer. Il y a des débats dans l'islam, mais y compris les plus conservateurs ne sont pas toujours des légitimateurs du terrorisme. Attention à ne pas faire cet amalgame, parce qu'il est contre-productif du point de vue citoyen et du point de vue sécuritaire.
Alors, Amine El-Khatmi n'est pas là pour vous répondre, mais Vincent Gessard, j'aimerais qu'on vienne sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Vous parlez de triple épreuve à laquelle font face les Français musulmans, une épreuve personnelle, une épreuve citoyenne et puis une épreuve spirituelle. Oui. Puisque vous le dites, beaucoup de Français de confession musulmane à qui vous avez parlé sont amenés, avec les attentats, avec les amalgames, à repenser leur foi, leur spiritualité.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, la position est plutôt on n'a pas à se justifier en tant que musulman, mais il faut se mettre à la place d'une mère de famille ou d'un père de famille qui voit des jeunes mourir au Bataclan. Et donc, ça crée une épreuve effectivement individuelle en tant que citoyen, en tant qu'individu. Ça crée une épreuve aussi en tant qu'appartenant à ce pays qu'on aime, la France. Et ça crée une épreuve aussi en tant que croyant. C'est-à-dire que les musulmans, et c'est peut-être ça qui est le moins analysé par nos confrères ou par les journalistes, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un pays de liberté où on peut être un citoyen et avoir une croyance religieuse. Et il faut le dire, le terrorisme, au départ, les gens avaient tendance à dire ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec la religion. Et aujourd'hui, un certain nombre de croyants disent « Ah, et s'il y avait quand même une certaine responsabilité de l'histoire musulmane, pas de l'islam en tant que tel, mais de l'histoire musulmane, de certains théologiens. » Donc aujourd'hui, la responsabilité d'un certain type d'islam, d'un certain type de textes doctrinaux, voire même de certaines références canoniques, est clairement posée. Et effectivement, ça interroge des croyants ordinaires qui s'interrogent sur notamment « Est-ce que la foi a une responsabilité dans la violence ? Est-ce que notre religion pourrait être en partie responsable du terrorisme ?» Et ça, c'est des questions qui sont posées, qui interpellent, qui secouent profondément les croyants ordinaires musulmans qui vivent dans notre pays. Et c'est vrai que là, je suis d'accord avec l'élu qui a été interrogé, d'Avignon. C'est vrai qu'on est aussi dans un espace démocratique qui permet ce genre de réflexion, ce qui n'est pas permis dans tous les pays.
Et ça, c'est important de tenir ce débat-là.
La France est quand même un pays de liberté où un croyant musulman peut dire clairement, oui, ben, à un moment donné, peut-être qu'il y a une certaine responsabilité de savants musulmans, de certains pays, dans la légitimation des argumentaires terroristes. Et ça, je pense qu'il faut que c'est aussi l'espace démocratique, l'espace public pluraliste qui permet cette introspection critique des croyants, qu'ils soient juifs, musulmans ou catholiques, sur la responsabilité de la foi dans la banalisation de la violence.
7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. c'est sur RFI.
On l'a beaucoup entendu sur les plateaux télé, radio. Anan Chahiri a publié le livre « Ma mère patrie » en hommage à sa mère, victime de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Vous vous souvenez, hein, ce camion qui avait fauché la foule. Elle est au micro d'Élise Lucet sur France 2.
Quelques jours après les attentats, lors du recueillement sur la promenade des Anglais, je me suis fait agresser avec mes sœurs à deux reprises. Il y a une première personne qui nous a dit « On ne veut plus de ça ici, on ne veut plus de vous ici ». Puis ensuite, une seconde personne voilà, qui nous a dit « Vous sortez en meute ».
Vous sortez en meute ?
Meute, ouais. Et on lui a répondu, on lui a dit « Mais écoutez, on vient de perdre notre mère ». Et lui, il l'a trouvé une seule réponse et ben, tant mieux, ça en fait une en moins. C'est en fait, c'est dire qu'on perd sa mère dans des situations comme ça. Et ensuite, se dire que même un deuil correct, j'y ai pas le droit, c'est vraiment la double peine.
Il y a un événement qui vous a particulièrement marqué. Deux Niçoises de 17 et 19 ans ont été arrêtées alors qu'elles s'apprêtaient à commettre une action terroriste en France. Et cela, deux mois seulement après l'attentat de Nice. Pour vous, ça a été un deuxième électrochoc. Qu'est-ce que vous leur dites exactement ?
Je vais vous lire le passage lorsque je m'adresse à ces jeunes filles. Qu'espères-tu, gamine ? Que viens-tu faire dans cette galère ? Ici, tu es libre. Pourquoi vouloir t'enchaîner ? Peux-tu être vendue comme esclave ? Violée par l'armée des dingues, ici tu as tout. Là-bas, tu ne verras que mort et misère. Nice ne t'a pas suffi ? Tu en veux encore ? Tu veux faire couler le sang ? Tu es ma mère une deuxième fois ? T'en prendre à des enfants, à des innocents, à ton frère ou à ton père ? On te promet monts et merveilles, mais c'est l'enfer qui t'attend. Ouvre le Coran si tu ne me crois pas. Tu veux te référer à l'islam ? Réfère-toi aux livres sacrés, pas à des prédicateurs magnifiques.
Seydi Djamil Niane, comment s'engager contre la radicalisation ? Vous vous écrivez dans votre livre « Nous, musulmans, devons être acteurs du dialogue et renforcer les liens avec des personnes de différentes convictions ». Alors qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens ?
Oui, concrètement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle ce passage du vivre ensemble au faire ensemble. Parce qu'on est parti du principe que pour créer du lien, le plus simple, c'est vraiment de mettre en place des actions concrètes.
Vous faites partie d'une association
qui s'appelle Coexister, qui a été créée en 2009 par un jeune qui s'appelait Samuel Djiboski et qui aujourd'hui compte 40 groupes en France et quelques groupes européens. Du coup, on milite vraiment pour ce qu'on appelle la coexistence active, c'est ce passage du vivre ensemble au faire ensemble parce qu'on est parti, parce que pour la bonne et simple raison, c'est que le vivre ensemble est possible même avec une personne qu'on n'apprécie pas. On peut vivre ensemble avec quelqu'un dans la paix, chacun reste dans son coin. Mais il faut aller plus loin, aller vers le faire ensemble. Et pour ça, il y a des actions qui se mettent en place un peu partout en France. Je conseille vos éditeurs d'aller regarder ce qu'on fait sur le terrain. Mais pour s'engager aussi, il y a autre chose très simple que je dis à mes amis musulmans parfois. Et peut-être ça en lien avec ce qui venait d'être dit. C'est que parfois, il ne faut pas non plus hésiter à avoir un discours critique sur notre propre responsabilité. Bon, on ne va pas revenir sur ce débat en tant que musulman, mais aussi en tant que citoyen. Mmh. En tant que citoyen, par exemple...
En tant que citoyen, par exemple, on peut se dire,
c'est vrai, il y a quelques discours qui posent problème, mais que notre cher pays, que la France, que nous aimons beaucoup, a vendu entre 2010 et 2016 9 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite, dont parlait tout à l'heure notre élu.
On parle voilà. du financement et
du coup, ce sont des choses concrètes qu'il faut.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous sommes en ligne avec un voisin, Maktar, à Sèvres, en région parisienne. Bonjour, Maktar.
Bonjour.
Vous êtes vous-même de confession musulmane et vous présidez une association qui s'appelle Valeurs Républicaines. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette association ?
Alors, VRP, Mieux Vivre Ensemble, est une association créée dans le sens justement d'aller dans le sens d'apaiser les climats de tension que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que, si je reviens à votre question, à savoir comment vont les musulmans de France, sans verser bien sûr dans la victimisation, nous pouvons dire que les musulmans de France vont très mal. Vont très mal dans la mesure où ils sont épiés, surveillés, victimes d'amalgames, enjoints de pouvoir se justifier à tout va. Il faudrait maintenant qu'on puisse montrer à travers certaines actions que le vivre ensemble est possible, que tout musulman n'est pas en pouvoir de bon potentiel.
Et comment alors concrètement? Par quelles actions?
À travers des actions, c'est-à-dire, c'est ce que votre invité vient de dire toujours, tout de suite, passer de vivre ensemble au faire ensemble. Faire ensemble, aller dans les écoles, expliquer comment les valeurs républicaines peuvent être au-dessus de tout, comment ce partage, comment la fraternité républicaine doit être mise au centre à travers soit des repas qu'on partage avec des thèmes qu'on prendra pour développer lors de ces partages, soit par des déplacements en prenant des jeunes, parce que tout se commence par le bas âge au niveau des écoles, au niveau des collèges. Expliquer aux enfants que la France vaut la peine, que nous vivons tous ensemble main dans la main. Quand il y a le feu qui brûle dans la maison, on ne va pas dire au frère, toi qui es le pompier, tu éteins le feu, tout le monde s'y met. C'est tous ensemble que nous devons faire face à ce diable.
Et il faut faciliter le vivre ensemble. Merci, Maktar, pour votre témoignage. Vincent Gesser, on arrive à la toute fin de cette émission. Qu'est-ce que cette crise, selon vous, peut faire naître de bon? Dans votre livre, vous évoquez une destruction créatrice.
Je crois que c'est une épreuve dramatique pour tout le monde. Et moi-même, dans ma ville, moi je suis Marseillais et fier de l'être, j'ai été hier frappé. Mais je pense que de cette épreuve terroriste naîtra aussi une déclaration d'amour. Et jusqu'à présent, il y avait un certain tabou chez les musulmans, y compris des musulmans qui étaient français et qui l'assumaient totalement, à se dire « je suis fier d'être français, je suis fier de la République, je suis fier de mon drapeau, je suis fier de l'hymne national ». Et cette crise terroriste a poussé les musulmans qui avaient ce tabou, qui n'osaient pas le dire, qui avaient le peur d'apparaître ringard, de dire qu'ils aimaient la France, de faire cette déclaration d'amour à la France, de faire cette double déclaration d'amour, à la fois à l'islamité et à la francité. C'est-à-dire finalement ne plus avoir peur de dire « je suis français, je suis musulman et j'assume mon islamité dans ma francité ». Donc je pense, oui, que de cette épreuve naîtra une destruction créatrice.
Et quelque chose de positif.
On pourrait dire sous forme d'amour, mais sous forme de passage à l'acte à l'amour, c'est-à-dire finalement de s'unir contre ce terrible mal qu'est le terrorisme.
Merci beaucoup Vincent Gesser, merci également à vous, c'est Didier Amindian. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins. Pourquoi les métiers de la cuisine font-ils autant rêver? Quelle réalité loin des paillettes des émissions télévisées? À demain, les voisins.